Et si vous pouvez vous rapprocher, ça vous permettra de mieux voir l'écran.
Donc nous allons terminer la séance de ce matin. Je vais donner la parole à Patrick Trebola, qui est maître de conférence à l'université Nanzan de Nagoya. Il est membre fondateur de l'équipe Hubert de Falaise, avec Henri Béard, Michel Bernard et Pascal Mouzet. Bon, il est très impliqué dans les relations entre littérature informatique et Internet. Il est l'auteur de « Des salons littéraires sont dans l'Internet », publié au CUF en 2002. Et même aussi un blog, un journal littéraire depuis 4 ans. Il enseigne le cinéma, la littérature et le français à Nagoya et Bondi. On le connaît, ayant constitué des bases de données pour le cinéma en particulier. Voilà, on lui donne la parole.
Merci. Alors le titre de ma communication affiché dans le programme, c'est « Dimensions et statuts du politique chez Claude Simon ». Et le titre original était « Diégèse, palimpseste, discours, dimensions et statuts du politique chez Claude Simon ». Bon, petit détail. Je vais essayer d'aller vite et l'ensemble de ces documents et tableaux sera disponible en ligne. Donc, surveillez le courrier, par exemple, de Pascal, qui vous en donnera l'adresse, parce qu'on n'a évidemment pas le temps de s'y attarder. Il y a 45 pages de tableaux que j'ai pas le temps de commenter. Alors, mon intention première était d'étudier le politique dans l'œuvre de Claude Simon et du souvenir globalisé par ma mémoire, aidé par les textes électroniques, retrouver, trace, historiciser et donner sens à des expressions politiques énoncées, assumées ou commentées par des personnages et par des narrateurs, voire sous-jacentes au texte. Le tout en décalque ou en contraste avec les éléments politiques des prises de parole de Claude Simon lui-même, ce que je n'aurai pas le temps de faire de toute façon. En passant à la phase de recherche dans les textes, je me suis vite heurté à trois obstacles majeurs, l'identification de ce qui est politique et la limite de ce qui ne l'est pas, le classement des citations identifiées et, bien sûr, le degré d'imputation à Claude Simon, assis à sa table, de l'autre côté de la barrière de la fiction. En effet, il ne suffit pas de se servir de trois ou quatre bouts de phrases prise à une œuvre de plusieurs milliers de pages de fiction pour établir, comme on le voit faire parfois, la position politique d'un auteur. Cela nous a donné longtemps des images déformées de Balzac, de Hugo ou de Flaubert, par exemple. Inversement, je pense qu'il n'y a pas de véritable position politique d'un auteur, mais que des discours circulent dans les œuvres, assumés au mieux par des personnages ou des narrateurs, inscrits dans des diégèses où ils prennent sens et dont il ne serait peut-être pas prudent de les sortir tout armés, mais qu'il nous incombe, sur la base de répétitions, reprises, différences, contrastes, revendiquées ou palimpsestiques, de discuter de bribes d'opinions politiques éventuellement imputables à l'auteur sans qu'il en soit nécessairement conscient. Mon questionnement s'est alors transformé en ceci: comment identifier du politique dans le texte, voire de la textualité politique? Comment suivre et comment tracer tout cela dans l'évolution d'une œuvre littéraire d'une soixantaine d'années? Le texte n'étant fait que de mots, il me fallait partir au plus simple de l'index des mots réalisés il y a donc fort longtemps, avec Pascal Mougin, en 1994, enfin avant 1994, et mis en ligne en 1994 sur le site de Hubert de Falaise, en accès libre, que tout le monde peut donc utiliser. Je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà. Cet index indique pour chaque occurrence de mots, par exemple ici le mot « habilement », le nombre d'occurrences qui est 10 et les positions dans les textes, c'est-à-dire le vent, page 231, histoire, page 156, etc., etc. C'est quand même une simplification du travail. Bien sûr, il n'y a pas de lien intertexte permettant de mener au texte, puisque nous sommes dans des textes sous copyright. Si on était dans des textes du XVIIe siècle, on pourrait tout à fait le faire. C'est d'ailleurs déjà fait par d'autres. Voilà donc cet index qui contient plusieurs morceaux, parce que ce sont des gros documents. Donc vous avez de A à C, de D à G, de L, etc. Et un fichier de nom propre. À partir de ces index, j'ai donc rassemblé les références d'un certain nombre de mots et de leurs diverses formes dans les textes, moins d'une centaine, des mots a priori politiques, selon mes connaissances. D'anarchie à syndicat, en passant par république et révolution. Donc ici, on commence à anarchie. Et pour le mot anarchie, on a trois occurrences, histoire, corps conducteur, géorgique, etc. J'ai également retenu les mots gauche et droite, mais j'ai retiré les occurrences parce qu'il y en a plusieurs centaines. Et la plupart d'entre elles, vous en doutez bien, n'ont pas rapport aux politiques. Déjà, les occurrences de anarchie ou de anarchiste ne sont pas nécessairement politiques dans le texte. C'est un des problèmes qui se posent à nous. Alors, ça c'est la liste donc de la phase 1, que j'ai appelée comme ça, l'hypothèse minimale et la sélection lexicale. Cette liste, voilà, et puis ici les références des ouvrages de Claude Simon. Jusqu'à syndicaux, dans ma sélection, a priori. Deuxièmement, en parcourant les contextes dans les œuvres, dans les textes numérisés, j'ai sélectionné les emplois pertinents au regard des possibilités thématiques du politique et je les ai compilés dans une liste des contextes pertinents, en respectant sous chaque forme l'ordre chronologique des œuvres. On arrive à la deuxième partie qui rassemble ici un certain nombre de citations sur une petite dizaine de pages. Alors, j'ai mis en rouge quelques citations que je me proposais de vous lire ou de vous laisser lire, mais je crois qu'on n'en aura pas le temps, donc je vais en lire peut-être deux ou trois. Par exemple, pour le mot anarchique, on a ici huit occurrences, mais en fait, sept de ces occurrences ont été jugées par moi non pertinentes dans le contexte politique. Et une seule, que j'ai conservée ici, qui provient de CR, qu'est-ce que c'est ?
D'accord,
merci. Vous suivez, je vois. Page 135. Et c'était bien cela, en effet, à part qu'il n'y avait ni secret, ni occultisme, ni élu, mais seulement l'incoercible et spontané bouillonnement des invariables afflux. Un monde libre, anarchique, et pourtant parfaitement construit, et qui, sans souci des bornes qui le limitaient, faisait que sentinelles, barrières, règlements s'effaçaient, devenait seulement quelque chose de semblable aux habituelles fatalités et obligations qui pèsent sur toute réunion d'humains, mais extérieure et sans plus d'influence sur son développement que la maladie, les accidents ou la mort naturelle. Cette citation est emblématique du traitement du politique par Claude Simon. Je le dis à l'avance, au cas où j'aurais pas le temps de conclure. On ne sait jamais. Voilà, donc ça c'est la phase 2. Alors la liste est assez longue, évidemment. Et on a dans ces références les parties non pertinentes, qui sont donc barrées dans les listes de mots, et les citations qui apparaissent. Dans ces citations, troisième phase, j'ai souligné un certain nombre de mots co-occurrents qui n'étaient pas dans ma liste de mots politiques a priori, mais qui apparaissent dans leur contexte, avec l'idée que les mots qui apparaissent dans le contexte d'un mot que j'ai considéré comme politique pouvaient avoir relation avec le politique, c'est-à-dire faire partie d'une liste plus large de mots au-delà de mon a priori, donc a posteriori, voire faire partie de thématiques autres qui seraient en relation évidente ou discrète avec le politique. Il s'agit donc des mots qu'on voit ici soulignés. Ensuite, pour chaque lemme du lexique politique, c'est-à-dire le lemme, c'est comme la forme dans le dictionnaire, hein, pour chaque lemme des différentes formes, j'ai constitué un troisième tableau, enfin un troisième ensemble de tableaux, plutôt de listes de mots, qu'on va voir ici, et qui est constitué de l'ensemble des mots soulignés, c'est-à-dire des co-occurrences des mots politiques, des mots du politique. On arrive à République, Révolution. Voilà. Oui, alors un petit arrêt ici. Il s'agit du tableau global des citations que j'ai rassemblées. On voit par exemple que pour les œuvres du début, il y a un grand nombre de mots du politique a priori qui sont utilisés et que environ la moitié ou le tiers se trouve en effet pertinent dans un contexte politique. Et on voit très bien le saut quantitatif, à défaut de qualitatif, hein, on ne le voit pas apparaître ici, à partir du vent, le nombre d'emplois pertinents est tout à fait réduit, sauf bien entendu dans Histoire, où on arrive à peu près à la moitié des citations pertinentes, et évidemment dans les corps conducteurs, mais là on parle d'autre chose puisqu'il y a ces propos politiques tenus par des gens et en deux langues, ce qui fait que les mots sont répétés deux fois, ce qui peut être d'ailleurs considéré comme une forme d'ironie, hein, en plus de l'ironie des commentaires. Les géorgiques également contient un nombre assez important d'occurrences pertinentes, mais on sait là aussi que c'est de façon tout à fait neutre, hein, une sorte de commentaire historique qui n'est pas la voix d'un narrateur ou la voix d'un personnage. Et le reste des œuvres, eh bien, a très peu d'occurrences pertinentes. Ce qui pourrait être une conclusion négative du travail par rapport à l'hypothèse de départ, mais on verra que ce sera peut-être différent. Voilà donc les tableaux de co-occurrence. Par exemple, les mots anarchie, donc anarchiste, anarchisme, etc., donc le lemme anarchie, rassemble autour de lui, dans l'ensemble des œuvres de Claude Simon, un certain nombre d'autres mots qui va donc de accessoire, incrédule, règlement, etc., jusqu'à wagon. Pour capitalisme, la liste est plus réduite, pour communisme encore plus. Conservation, démocratie, fascisme, libéralisme. Le mot liberté est entouré d'un assez grand nombre de mots. Donc on pourra peut-être y revenir cet après-midi, hein, si vous voulez en discuter, et en particulier discuter de la pertinence des hypothèses ou des méthodes. Hein, ce n'est pas toujours valide. J'ai pris la citation politique pertinente. Donc en gros, c'est une cinquantaine de mots avant et après, pas plus. Le mot politique, enfin le lemme politique lui-même, évidemment il y a un grand nombre d'occurrences, et puis une page blanche. Il y a des petits problèmes d'ajustement des tableaux par les logiciels libres. C'est pas Word. Le mot révolution, enfin le lemme révolution, royalisme, socialisme, etc. Alors, je n'ai pas eu le temps d'exploiter ces tableaux par lemme et je me suis concentré sur le tableau global où je les ai tous rassemblés de façon à faire apparaître un effet de fréquence. Voilà donc le tableau global. Dans le tableau global, on voit que certains mots sont répétés, par exemple abandonné deux fois, allemand un certain nombre de fois, et donc ce tableau est très long, je vais le passer. Voilà. Et on arrive ici au dernier, enfin l'avant-dernier travail que je me suis proposé, qui est donc le rassemblement sous forme de fréquence de ces termes des co-occurrences. Et on voit que les termes qui apparaissent le plus souvent en co-occurrence du politique sont les termes de l'écriture, avec écrire, écrit, écrit, écriture, écrive, écrivait, écrivain. Les termes du politique, donc ça c'est autoréférentiel. Le domaine de la guerre, de la parole, de la mort, du peuple, de la lutte, etc. Et ensuite on a un effet de décroissance jusqu'aux mots qui n'ont qu'une occurrence. Alors, donc j'ai pas le temps de lire les citations en rouge, mais je les laisserai en rouge, et peut-être si vous avez le temps d'y revenir par internet, vous les lirez. J'en arrive maintenant à mes remarques générales sur l'ensemble du travail que j'ai effectué pour cela. Le plus important, à mon avis, est que le vocabulaire politique n'est pas, ou très peu, employé par Claude Simon dans le cadre d'une action romanesque. Il n'y a pas d'organisation de personnages des romans qui serait narrativement élaborée sur des choix politiques, avec propositions, discussions, décisions, actions, réactions, comme on peut le voir chez des contemporains comme Gide, dans Les Faux-Monnayeurs, ou Sartre, dans Les Chemins de la Liberté. Ainsi, lorsqu'on voit des personnages discuter en employant des arguments politiques, dans Le Tricheur ou dans La Route des Flandres, il s'agit moins à proprement parler d'arguments politique visant à convaincre l'autre et à envisager une transformation sociale par l'action politique, comme ce serait le cas chez Balzac, Zola ou Jules Vallès, que d'apostrophes ou d'invectives opposant des positions définitives et inamovibles. En ce sens, il n'y a donc jamais, ou presque jamais, d'intrigue politique chez Claude Simon, sauf peut-être dans Orion aveugle et Les corps conducteurs, qui sont... Je vais montrer tout à l'heure des fréquences assez élevées, où un réel suspense existe sur les motions discutées et adoptées par les personnes en réunion. En effet, lorsque des personnages balzaciens s'entendent pour s'emparer d'une position sociale ou politique, décider de diverses actions secrètes ou officielles en vue de profiter d'une information ou d'un changement gouvernemental pour faire triompher leurs idées ou asseoir leur situation personnelle, il est possible alors de dire que le politique a une dimension, une efficacité et une performativité romanesque. Rastignac serait, sur une base machiavélique, un modèle positif du politique romanesque, comme il n'en existe pas chez Claude Simon. Le Fabrice de La Chartreuse de Parme ou le Frédéric de L'Éducation sentimentale sont des modèles négatifs du politique romanesque, qu'il soit perdant, sceptique ou inconscient, et dans ce sens un peu pré-simonien, mais leur action ou leur existence s'inscrit tout de même dans un cadre de transformation politique qui profite au roman lui-même. Chez Victor Hugo, toute action romanesque ou théâtrale, fenêtre ou égout, est à envisager sur un plan politique, même si le vocabulaire du politique n'est guère employé. Je parle de Victor Hugo. Les discours de nature politique entre personnages sont ainsi, chez Simon, des positions statiques, des états naturels, en quelque sorte, que l'action romanesque, quand action il y a, ne saurait modifier. Le corps social dans son ensemble semble être agi par l'histoire ou par quelques personnes nécessairement mal intentionnées. Et même lorsque des discours et des intentions considérées comme bonnes, nobles, humaines, mènent à action politique, comme c'est le cas de la Révolution française ou de la Révolution espagnole, le tour que prennent par la suite les événements historiques est nécessairement négatif, contre-productif et destructeur des apports et des acquis. Le Sacre du printemps, en opposant les idées neuves et la croyance en l'action politique d'un jeune homme au désabusement d'un homme plus âgé qui avoue avoir vécu l'engagement et en être revenu, constitue peut-être le seul cas chez Claude Simon d'un roman où le politique est à la fois l'enjeu d'un apprentissage, rite de passage qui justifie le titre, et le moteur de la construction romanesque elle-même. Les idéaux encore suspendus dans la corde raide, encore défendables par l'individualisme ou l'art dans un but politique constructif, s'écroulent dans le Sacre du printemps du fait que la succession des générations n'est pas la base d'une transformation, d'un progrès humain, mais le recommencement erratique ou statistique de divers destins. Dès lors, la dimension politique n'est plus un enjeu transformationnel, ni intra- ni extra-diégétique, et devient un motif discursif, comme on dit un motif graphique, ouvrant de façon quasi obsessionnelle d'un roman à l'autre sur une mise en perspective historique et distanciatrice qui atteste d'un pessimisme généralisé ou pour le moins de l'inutilité de l'action ou du discours politique. Alors que le vent ou l'herbe tentent de faire vivre des êtres humains dans des situations sociales et familiales isolées, en marge du politique, la route des Flandres et le palace les réinscrivent au contraire violemment dans un paysage politique et historique où les personnages n'ont plus aucune liberté d'action, dans la mesure où ce qu'ils croyaient être leur liberté se trouve réduit à néant et reconsidéré par eux, c'est un des enjeux du travail de mémoire, comme une illusion généralisée dont ils ont été les jouets, celle-là même que dessinait le Sacre du printemps. Cette sorte d'échec n'est pas seulement imputable aux personnes ou à l'intrigue, mais c'est aussi, surtout peut-être, l'échec du fondement romanesque lui-même, au moins lorsqu'il va, comme jusqu'ici, sur un unique chemin narratif, chronologique et téléologique. En quelque sorte, Claude Simon fait ou refait la démonstration par l'absurde de l'horreur du téléologisme telle que Sartre la mettait déjà en scène dans La Nausée. Alors que Beckett ou Pinget explorent des domaines microscopiques qui les sortent du réalisme, que Sarraute décompose et individualise des bribes de pensées velléitaires, ou que Robe Grillet généralise l'emploi de brisures de stéréotypes, Claude Simon arrive devant un mur. Pour sortir de cette impasse, il va par la suite élaborer et entrecroiser plusieurs plans narratifs et plusieurs diégèses, non pour compliquer l'affaire et produire de l'illusion, mais dans le but d'obtenir un objet littéraire qui soit une sorte de mobile dont le mouvement des pièces pourrait provoquer, à l'écriture comme à la lecture, des événements qui ne peuvent qu'être de type littéraire par la rencontre, l'écho, la correspondance des divers motifs et plans mis en présence. On est en même temps dans une période où des discours politiques indépendants des œuvres précèdent et accompagnent partout les auteurs alors dits du nouveau roman. Les voici sommés de produire le discours de leurs œuvres et mis sur un pied d'égalité dans la discussion avec des universitaires et des journalistes, les œuvres en quelque sorte ravalées au niveau d'instruments destinés à opérer un tournant ou un progrès en art, ce dont sont friands les médias. Les voilà en conclave à Cerisy, fêtés et sollicités de toutes parts, leurs œuvres rhabillées de discours théoriques et politiques dans lesquels elles flottent ou elles étouffent. D'histoire à leçon de choses, Claude Simon parvient pourtant à sculpter d'imposants mobiles que la critique aplatit presque systématiquement, à l'époque, voulant voir des successions de fragments là où il y a des interpénétrations de volumes. Pour ce qui concerne l'emploi du vocabulaire politique, on voit dans le tableau, que j'ai ironiquement intitulé « tableau de rendement », c'était le petit tableau de tout à l'heure, « rendement », que c'est plutôt une période creuse. Ce qui est paradoxal, puisque, vous m'accorderez peut-être, c'est là le point aveugle du présent travail, que les œuvres publiées durant cette période, de 67 à 75, constituent en elles-mêmes et au présent des actes politiques qui se passent de mots. La suite, à partir des géorgiques et jusqu'aux dernières œuvres, permettra à Claude Simon de conserver les vertus des panneaux mobiles, des jeux de volume, mais en les réinvestissant dans la mémoire familiale et les échos temporels. Là encore, le vocabulaire politique n'est plus d'une grande utilité et les emplois des mots du politique attestent d'une grande prudence qui est peut-être la leçon des débordements médiatiques de la période précédente. L'aporie sur la nature humaniste ou non de l'œuvre de Simon, telle que nous l'avons découverte hier, pourrait sans doute être mise en relation avec la retenue dans le domaine du vocabulaire politique. Puisque le politique n'est pas dans les intrigues, l'observation des contextes des mots permet de constater qu'il renvoie le plus souvent à une isotopie historique posée en arrière-plan et sur le temps long de l'histoire, comme les révolutions, les transformations sociales ou les bouleversements des guerres. Il ne suscite ni argumentation contradictoire, ni progression discursive. Il est d'ailleurs peu humanisé, peu joué par les personnages et, de fait, peu sexué. L'emploi des mots du politique en contexte féminin est extrêmement rare, pour ne pas dire nul, ce qui ne veut pas dire qu'il est implicitement masculin, même si on le pense très fort. Pour autant, cette isotopie politico-historique posée en tapisserie n'aide pas non plus les personnages à faire des choix d'action ou de discours. Les contextes observés font ressortir que le domaine politique est peu en relation avec des champs métaphoriques ou des domaines imaginaires, comme ce serait fortement le cas chez Gracq ou chez Butor, par exemple. En revanche, on le trouve souvent associé à des adjectifs négatifs ou contradictoires, dont la liste est longue dans le tableau global des co-occurrences. En bref, le champ politique est textuellement circonscrit et non proliférant. En quelque sorte, il est littérairement neutre et inopérant. Dans la plupart des cas, il renvoie à une pensée constante et diffuse qu'il faut bien attribuer à l'auteur et qui assume une sorte de refus du politique dans le temps présent, c'est-à-dire le temps de l'action ou de l'engagement politique. Et il propose une vision transhistorique de la politique involontaire de l'espèce humaine, beaucoup plus organique qu'intellectuelle. Je vais peut-être sauter un bout de paragraphe. Ni les personnages ni les narrateurs n'entrent véritablement par un mouvement de pénétration du domaine politique dans l'argumentation, comme je le disais tout à l'heure. Bien au contraire, l'évocation du politique est l'occasion, de façon presque systématique, d'un mouvement de recul, de relativisation, de mise en perspective, de doute, correspondant à la phraséologie souvent dubitative, corrective, autocorrective, jamais autoritairement affirmative de Claude Simon. À la différence des grands auteurs qui l'ont précédé ou qui ont été ses contemporains, Hugo, Barrès, Romain Rolland, Bernanos, Sartre, etc., et qui forment la culture politique critique du XXe siècle, Claude Simon traite du politique de façon à ne pas entrer dans son champ discursif. Encore 3 minutes. Ce surplomb pourrait être le même que celui qui, hérité des développements idéologiques et techniques des XVIIIe et XIXe siècles, a produit les grandes idéologies du XXe, mais au lieu de mener Claude Simon à un constructivisme socialiste ou capitaliste, ou à un organicisme, comme chez Oswald Spengler, repris par Gracq, ou comme l'ethnicisme nazi, ce surplomb, dont on se demande quand il a été acquis, puisqu'il semble déjà être présent dans Le Tricheur et La Corde raide, ce surplomb l'a maintenu dans un relativisme stoïque et épocal, duquel il n'est que rarement sorti. Dans la critique sociale d'un ou deux des premiers romans, Gulliver ou Le Sacre du printemps, dans la nostalgie de l'enthousiasme révolutionnaire de 1936, Le Palace, par exemple, dans la colère contre les égarements de type sartrien, hors œuvre littéraire, dans l'illusion fugace de participer à un mouvement littéraire, colloque de Cerisy par exemple, voire dans la défense du nucléarisme français contre Hoé Kenzaburo, cette prise de position très discutable étant d'ailleurs la seule véritablement en dehors du champ littéraire. Mais qu'allait-il faire dans cette galère? Conclusion. Quelles que soient les traces du politique dans les contenus de l'écriture, mots et sens, intra ou extra diégétique, il est également important de postuler la dimension politique de l'écriture elle-même. ce qui n'apparaît pas du tout dans ce genre de travail. Que serait la dimension politique de l'écriture de Claude Simon ? Je la dessinerai autour de deux concepts, celui de la tentative et celui de la polémique. Le concept de la tentative, dont les corollaires sont la connaissance, la mémoire, la répétition, l'hésitation, la pédagogie, la transmission, etc., imputables au narrateur et derrière eux à l'auteur. Le concept de la polémique, dont les corollaires sont la politique, la guerre, la sexualité, etc., est imputable au personnage tiers, certains narrateurs, et à l'intrusion de la société présente dans le discours pan-historique. Mais il me paraît surtout important de redire que les constructions littéraires proposées par Claude Simon après la route des Flandres, et que j'ai comparées à des mobiles en trois ou quatre dimensions, ont déplacé le discours politique du plan lexical, des mots du vocabulaire politique tels qu'ils étaient employés souvent dans les premières œuvres, vers le plan performatif et illocutoire que devient l'action politique sans les mots, du fait de l'obligation de la lecture dynamique par de la lecture des œuvres dynamique par des lecteurs au travail, lecteurs qui travaillent à lire. Aujourd'hui encore, au printemps 2008, un critique qui prétend s'intéresser à la littérature contemporaine dans une petite feuille de chou la chroniquée et en publiée, qui s'appelle Philippe Vébray, est capable d'affirmer tranquillement sur son site internet que l'on m'autorise à rester vulgairement orthodoxe dans mes choix, voire ringard, je le revendique, dès lors qu'il me faut l'aide d'un mode d'emploi pour entrer dans une œuvre et y éprouver du plaisir, je baisse les bras. C'est lui qui considère qu'il faut un mode d'emploi pour lire les auteurs du nouveau roman. Je n'ai pas le temps de vous lire le reste de la citation. C'est assez catastrophique pour quelqu'un qui veut présenter de la littérature contemporaine et qui ne présente en fait que du sous-sous 19e siècle à la sauce 21e. Alors c'est bien au contraire cette tranquillité et cette ringardise qui sont à la fois politiques, poétiques et philosophiques, comme dirait Henri Méchonnic, qu'écrivaient et qu'écrivent encore ceux qui veulent encore quelque chose d'autre que ce qui existe déjà, et en particulier les auteurs du nouveau roman. Pour le reste, je vais retourner à mes tableaux d'occurrence et de co-occurrence, car je pense qu'il y a encore des choses à en tirer. Je regrette de ne pouvoir conclure, mais je crains que les réseaux de mots n'ouvrent que sur d'autres réseaux de mots. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ça que j'appelle la littérature. Merci.